faut pas c'est tomber de sa chaise. Alors ce matin on a parlé un peu de la figure de Saint Jean-Baptiste. Cet après-midi je vais essayer de donner quelques conseils spirituels. Et sur cette prière d'adoration, en fait, c'est des conseils qui peuvent être donnés pour n'importe quelle forme de prière. Et on va aussi regarder, commencer peut-être par la figure de Sainte Marie-Madeleine. Sainte Marie-Madeleine, c'est vrai que je suis curé de cette basilique Sainte Marie-Madeleine dans le Var. Et vous savez, on a beaucoup de groupes qui viennent voir Sainte Marie-Madeleine, qui viennent prier. Donc vous avez, il y a deux sanctuaires qui sont liés à 20 km de distance. Il y a la grotte de la Sainte-Baume, où Marie-Madeleine a vécu. Et ensuite, passé plusieurs années de contemplation, de prière, de mission aussi, hein, première missionnaire. Et puis ensuite, il y a la basilique Sainte-Marie-Madeleine, qui est le tombeau de Marie-Madeleine. C'est là qu'elle est enterrée. Donc on a les reliques de Marie-Madeleine. On a plein de reliques assez amusantes, assez intéressantes. Donc il y a le crâne, et puis il y en a une qui est le Nolime Tangere. Alors je ne sais pas si vous parlez latin. Ne me touche pas, ne me retiens pas. Parce que vous savez, lorsque Marie-Madeleine a vu Jésus ressuscité, elle s'est jetée à ses pieds, elle a voulu le saisir, l'embrasser. Et à ce moment-là, Jésus a dit, ne me touche pas, ne me retiens pas, je monte vers mon Père et votre Père, mais va annoncer la bonne nouvelle. Alors tous les gens viennent vénérer le morceau de peau qui, en fait, est resté intact, incorruptible, parce que touché par le ressuscité. Donc voilà, donc il y a le crâne et puis il y a le morceau de peau. Alors en fait, ce morceau de peau, nos chers révolutionnaires bien-aimés ont essayé de le profaner pendant la Révolution. Donc il est plus sur le crâne de Marie-Madeleine, mais il est dans une ampoule, mais qui est juste à côté. Alors tous les gens viennent voir cette relique de la résurrection. Alors, moi, je les accueille avec toute l'attention que je peux leur donner. C'est des bons pèlerins. Mais j'essaie toujours de leur dire, vous savez, vous avez fait tant de kilomètres pour voir un morceau de peau que le ressuscité a touché il y a 2000 ans, alors qu'à quelques mètres de chez vous, vous n'avez pas la relique, mais vous avez le ressuscité présent dans l'Eucharistie. Hein. Et d'essayer de faire comprendre aux gens que le trésor, notre trésor, c'est Jésus dans l'Eucharistie qui est vivant. Hein, ce n'est pas un morceau de peau que Jésus a touché, mais c'est le ressuscité qui est là. Alors, je vais commencer par lire ce passage de Marie-Madeleine à la résurrection. Et ensuite, on fera, un peu comme hier, une petite analogie pour voir comment on le vit dans la messe. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, dehors, tout en pleurs. En pleurant, elle se penche vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se tourna, elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Alors ça, on entend ça, pas le dimanche de Pâques, souvent c'est le deuxième dimanche, le troisième dimanche, ou c'est dans l'octave de Pâques qu'on a ce texte de la résurrection. Alors comment faire notre petite analogie? Alors Marie-Madeleine s'approche du tombeau, et comme on dit, elle pleure comme une Madeleine. Bon, c'est très bien. Alors, en fait, elle pleure comme une Madeleine trois fois dans l'Évangile. Mais elle pleure pour les bonnes raisons, parce que souvent nous on pleure, mais pas pour les bonnes raisons. La première fois qu'elle pleure, c'est quand elle s'est perdue à cause de son péché. La deuxième fois qu'elle pleure, c'est quand elle pleure Lazare, qu'elle a perdu. Et la troisième fois qu'elle pleure, c'est quand elle a perdu Jésus. Se perdre quelqu'un, perdre Jésus, c'est là où Marie-Madeleine pleure. Et trois fois, elle va retrouver grâce à Jésus, bien sûr, elle-même, par la miséricorde, quand elle est aux pieds de Jésus, elle retrouve Lazare. Alors Jésus sort Lazare du tombeau. Hein, c'est pas la résurrection, mais c'est un signe de la résurrection. Mais ça nous fait entrer dans la communion des saints. Et puis quand on perd Jésus, bien sûr. Alors, nous, à la messe, on commence aussi à pleurer tous ensemble. C'est la liturgie de la parole. Pourquoi on pleure tous ensemble? Eh bien, parce qu'on a perdu Jésus dans la semaine, hein, depuis notre dernière messe. On ne l'a pas reconnu, hein, dans notre prochain. On ne l'a pas servi, on ne l'a pas prié, on ne l'a pas adoré, on ne l'a pas mis à la première place. Et donc, on pleure tous ensemble. Hein, c'est une liturgie de la parole. Et ensuite, Marie-Madeleine se retourne. Mais elle se retourne deux fois. La première fois, c'est un retournement physique. Je me retourne sur moi-même. Hein, voilà, première conversion physique, comme on fait au ski. Hein, vous savez, quand vous êtes coincé au bout d'une piste et qu'il y a un trou, faites une conversion. Hein, vous ne pouvez pas tourner, donc vous retournez les skis comme ça et vous partez de l'autre côté. Donc ça, c'est la conversion physique. Et après, il y a une autre conversion plus intérieure. Alors, nous, à la messe, c'est vrai qu'il faut se retourner. On vient à la messe, il faut sortir de chez soi. Hein, alors, on a pris l'habitude d'avoir la messe à la télé. Mais non, la messe, à moins d'avoir un empêchement réel, il faut aller physiquement. Hein, l'incarnation, il y a le contact avec Jésus, il faut se rendre à la messe. Donc on sort de chez soi. Est-ce que ça suffit d'être physiquement présent à la messe? Non. Ça ne suffit pas de s'asseoir dans l'église pour participer à la messe, parce que Jésus est là et Marie-Madeleine, elle reste sur les apparences. Et elle dit « ça c'est le jardin ». Et comme nous, si je viens simplement physiquement à la messe, eh bien au moment où le prêtre élève l'hostie, je vais dire c'est du pain. Le drame de Marie-Madeleine, c'est qu'elle ne reconnaît pas Jésus parce qu'elle reste, voyez, sur les apparences du jardinier. Et alors, Jésus voit bien qu'elle passe à côté. Hein, elle lui dit, si c'est toi, dis-moi où tu l'as mis, il faut que je retrouve le corps de Jésus, hein, je vais le chercher. Et alors Jésus va la pousser à poser l'acte de foi, pour reconnaître, malgré l'apparence du jardinier, Jésus ressuscité. Et alors elle va l'appeler par son prénom, elle dit « Marie, Marie ». Et quand elle dit « Marie », alors là, elle entend, et là elle sait, elle voit le jardinier, mais elle sait que ce n'est pas le jardinier. Comme nous, quand quelqu'un qui nous aime, qu'on aime, nous appelle par notre prénom, même si la personne est cachée, on sait qu'elle est là, on sait qu'elle est là. Alors au moment où Jésus dit « Marie », là elle le reconnaît, elle se jette à ses pieds, et ensuite elle va l'adorer. Alors nous c'est pareil à la messe. À la messe on n'entend pas notre prénom lorsque Jésus élève l'hostie, le prêtre élève l'hostie. Mais on entend une parole toute similaire, on entend « ceci est mon corps ». Et au moment où on entend « ceci est mon corps », qui parle ? Alors certes, vous avez le prêtre face à vous, mais vous savez que c'est Jésus. Ce n'est pas le corps du prêtre là qui est là dans la petite hostie. Hein. Ce n'est pas le père Dominique, le corps du là. Non, c'est Jésus qui emprunte personne, la voix du père Dominique qui dit « Je suis là, ceci est mon corps ». Et quand on entend « ceci est mon corps », eh bien c'est Jésus qui nous parle à notre cœur et qui dit « c'est moi, je suis là ». Et alors, de même que Marie-Madeleine, il est dit qu'elle se retourne. Alors, elle se retourne une deuxième fois, elle ne se détourne pas. Hein. Elle s'était retournée physiquement pour se rendre là, et là, elle retourne son cœur. C'est un acte de foi. Et donc, quand j'entends ceci et mon corps à la messe, je pose l'acte de foi. Et je sais que même si je vois les apparences du pain, c'est Jésus ressuscité, et je me jette aux pieds de Jésus pour l'adorer. Hein. Comme Marie-Madeleine, qui malgré l'apparence, parce qu'elle n'a pas reconnu, eh bien, elle se jette aux pieds de Jésus, elle le reconnaît. Et alors elle dit « Rabouni ». Rabouni, c'est ça, catéchèse eucharistique en un mot. Il y a deux dimensions. Dans Rabouni, il y a le rabbi, le maître, le seigneur. Alors devant le seigneur, elle se met à genoux, elle se prosterne. Elle sait que c'est l'enseignant, c'est le maître, c'est celui qui est maître de toute chose qui est là. Donc c'est la dimension verticale de l'adoration. Mais en même temps, elle rajoute une petite note de familiarité. Elle dit « ni ». « Ni » en hébreu, c'est « mon ». « Mon Jésus que j'aime », on pourrait dire. « Mon maître, mon Dieu, hein, que j'aime ». Parce qu'elle a entendu hein, Jésus qui a dit « je vous appelle plus mes esclaves, hein, mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis ». Et elle sait que si Jésus s'est incarné, c'est justement eh bien, pour chercher, créer la relation, pour être aimé, hein, et pour aimer, nous aimer, pour qu'on puisse l'aimer en retour. Et donc, vous voyez, dans ce terme « rabouni », vous avez les deux étymologies, on peut dire, comme disait Benoît XVI, pour les JMJ, c'était à Cologne ou à Madrid, je ne sais plus, il enseignait que dans le mot « adorer », il y a le mot « proskunesis », en grec, c'est la soumission émerveillée devant la majesté de Dieu. Je me prosterne. Le premier devoir de justice dans la Bible, c'est l'adoration. Quand on parle de justice, on pense toujours à la justice sociale, et c'est le cœur de l'Évangile, hein, la justice sociale, de s'occuper des pauvres, etc. Mais d'abord, il y a la justice divine. Justice divine, c'est la créature qui adore son créateur, qui reconnaît que je ne suis pas Dieu, je ne suis pas égal à Dieu, mais si je vis, c'est parce que Dieu me maintient en existence. Hein. Et donc, c'est ce premier sens de l'adoration qu'on trouve, qui remonte aux origines, hein, qui remonte dans l'Ancien Testament avec Moïse qui se prosterne devant le « je suis hein, », celui qui est, celui qui tient toute chose en ses mains, hein, dans ses mains. Donc, la dimension verticale, proskunesis, et en même temps, cette dimension verticale, on la trouve dans le livre de l'Apocalypse, hein, où on voit les rois de la terre, dans les vieillards qui avaient des couronnes, qui jettent leurs couronnes, ils se prosternent profondément devant le ressuscité, hein, le Fils de l'homme dans sa gloire, ils jettent leurs couronnes à ses pieds, c'est-à-dire leur talent, tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils font, ce qu'ils savent faire, tout ça, c'est à ton service, Seigneur, je te le mets, hein, à ton service. Et donc il y a cette dimension verticale, mais pas que, comme on dit. Hein. Il y a aussi la dimension horizontale. Benoît XVI disait qu'il y a aussi l'étymologie « ad os », vers la bouche. Hein. Et « ad os »,« ad oratio », »,« adoration », c'est cette dimension d'amour, en fait. Et le pape enseignait, c'était Benoît XVI, aux jeunes, il y avait 1 million de jeunes, et il disait, voilà, il parlait du bouche à bouche. Alors c'est sûr, les gens, ils ont dit quand même, le pape Benoît XVI, il parle de bouche à bouche aux jeunes. Et ici, le bouche à bouche, c'est dans le sens, vous savez, celui qui a perdu son souffle, on le sort de l'eau, hein, et puis on va essayer de souffler, hein, ses poumons pour lui redonner le souffle. Hein. En fait, on partage son souffle que l'on donne à l'autre. Et donc, il y a cette dimension, vous voyez, d'amour, hein, et de Jésus qui me donne son souffle, qui me donne son Esprit Saint, pour que je respire avec son souffle, avec son esprit, hein, que je respire de sa vie. Et donc, Benoît XVI disait, voilà, il y a le proskunesis, la dimension verticale, ma place au pied de Jésus, hein, je ne fais pas le malin devant la divinité, devant le Seigneur qui est là, qui enseigne, mais en même temps, il n'est pas là, il n'est pas venu pour m'écraser, hein, ou pour m'impressionner, ou pour dire, regarde, gros nul que tu es, moi je suis super Dieu, hein, et donc il cache, hein, et c'est ce qu'on va vivre à Noël, il cache sa divinité, et il vient sous la forme d'un petit bébé, pour exprimer la tendresse, la bonté de Dieu, et en même temps celui qui vient chercher notre amour, il ne vient pas chercher la peur, hein, voilà, mais il vient chercher des cœurs qu'il aime. Donc, le vertical, la proskunesis, et l'horizontal, hein, c'est une soumission à celui qui s'appelle l'amour. Et ça, Benoît XVI dit, c'est ce qu'on appelle l'union. Je suis soumis à l'amour. Je suis soumis à celui qui est mon Dieu. Hein, je ne suis jamais Dieu, je ne peux pas être Dieu. Voilà. Donc, je reçois tout de Dieu. Hein, je l'adore, je l'écoute. C'est lui qui a quelque chose à me dire. Moi, je n'ai rien à dire à Dieu. Je ne vais pas lui expliquer la vie. Hein, mais j'ai besoin de l'entendre. Voilà. Et donc, c'est la grâce d'union. Alors, notre Marie-Madeleine, pour revenir ici, elle a reconnu Jésus sous les apparences du jardinier, elle a posé cet acte de foi sur le mari, et ensuite, eh bien, elle va se jeter aux pieds de Jésus, elle l'adore, c'est l'adoration. Et juste après, Jésus dit, maintenant, va hein, annoncer cette bonne nouvelle. Et elle est la première qui a dit, Jésus est ressuscité. Le fruit de cette annonce, hein, c'est son adoration, voyez. Et donc nous c'est pareil, notre adoration c'est je suis au pied du Seigneur, je l'adore, je le reconnais, il faut l'acte de foi, hein, il faut l'acte de foi, Et ensuite, c'est celui eh bien, que je vais annoncer. J'annonce celui que j'ai rencontré, celui que j'ai adoré. Voilà. Et si aujourd'hui on dit l'Église est apostolique, ça veut dire que c'est une succession d'apôtres. Moi, je crois que Jésus est ressuscité parce que quelqu'un me l'a dit. Je ne sais plus qui me l'a dit, mais quelqu'un me l'a dit. Parce que c'est ma maman, mon papa, un prêtre, je ne sais plus, mais enfin, quelqu'un me l'a dit. Et ce quelqu'un l'a su de quelqu'un d'autre, qui l'a su de quelqu'un d'autre, qui l'a su de Marie-Madeleine. La première qui l'a dit, c'est la femme qui était au pied de Jésus hein, et qui l'a adoré. Donc, notre adoration voilà, veut faire de nous hein, des missionnaires. Alors, Benoît XVI, lorsqu'il était à Altötting, c'est en Bavière, il est allé visiter la Bavière, et puis les Allemands voulaient lui rappeler que l'Église allemande, elle est riche, et donc elle est importante. Et donc ils étaient, entre autres, il avait visité le trésor de la grande basilique Sainte-Anne d'Altötting. Je ne sais pas si vous connaissez cette basilique, mais alors c'est splendide, ça brille de partout. Et donc il allait visiter le trésor. Hein, imaginez le plus beau, tous les ornements liturgiques, les calices, les ostensoirs et tout. Et puis ensuite, Benoît XVI, de manière improvisée, il est remonté, hein, et il a rassemblé tout le monde, et il a montré le tabernacle, et il dit, n'oublions jamais, nous catholiques, notre trésor, c'est pas là, ce qu'on a vu dessous, là, hein, dans la crypte, mais c'est Jésus, et Jésus dans le tabernacle. Et il dit, c'est ça, le vrai trésor de l'Église. Hein, c'est lui, c'est Jésus, et Jésus dans l'Eucharistie. Alors, un petit mot sur la transsubstantiation. Ça, c'est un mot, il n'y a que des théologiens pour inventer des mots comme ça. Hein. Jésus l'a jamais prononcé, ce mot, transsubstantiation, mais c'est ce qu'on apprend au catéchisme, normalement. Alors, on ne le dit pas comme ça, parce que, voilà. Mais, transsubstantiation, déjà, vous savez quoi? Il y a une analogie très intéressante hein, de la transsubstantiation. Vous savez où c'est dans l'Ancien Testament? Qu'est-ce qu'il peut me le dire? Il y a un texte dans le livre de la Genèse qui est l'analogie de la transsubstantiation, qui nous explique déjà cette réalité que les théologiens ont formulée avec des mots philosophiques un peu compliqués. C'est Genèse 27, c'est la bénédiction d'Isaac. Vous vous souvenez le vieil Isaac qui est aveugle et il veut donner sa bénédiction à son fils Ésaü, parce qu'Ésaü c'est le chasseur, il rapporte du bon gibier, il fait un bon repas, il mange bien, donc lui c'est un vrai mec, hein, donc il est content quand il y a un bon repas. Et donc il voulait donner la bénédiction au fiston, au fils principal, l'aîné, c'est normal, hein, l'aîné dans la Bible c'était celui qui recevait la bénédiction. Et puis voilà qu'il y a Rebecca, elle voit les choses autrement. Elle préfère le deuxième fils, hein, Jacob. Lui, c'est l'homme de l'intérieur, c'est l'intello, quoi. C'est celui qui n'est pas très bon à la chasse. Et il est dans ses bouquins. Hein, et voilà. Et alors, vous vous souvenez l'histoire, Ésaü va chasser, ça prend du temps quand même, il faut chercher, hein, voilà. Et entre-temps, avant qu'il arrive à revenir préparer le repas pour que son père reçoive le dernier repas, et après, il était sur le point de mourir, reçoive la bénédiction. Entre-temps, Rebecca, elle va chercher un petit agneau juste derrière la maison, elle le tue, elle le prépare, et ensuite, vous vous souvenez, elle dit à Jacob, « Va maintenant, tu dis que c'est Ésaü. Hein? » Alors c'est quoi cette supercherie, ce mensonge hein, pour voler une bénédiction? Alors il faut creuser un peu. Au moment où Jacob arrive, sa mère lui dit, « Non mais il a quand même pas la peau suffisamment virile, là. Hein? » Il a une peau de bébé, là. Donc, il va toucher hein, la peau et ça ne va pas le faire. Donc, elle met sur le bras de Jacob la peau de l'animal là, qui a été tué. Et comme ça, il dit, tu montes bien ton bras, il va toucher, il ne voit pas, il est aveugle. Là, il va dire, oui, ça, c'est bien Ésaü. Voilà. Et au moment où il arrive, Isaac, il n'est pas bête, il dit, mais c'est bizarre, c'est l'apparence d'Ésaü, mais c'est la voix de Jacob. Vous voyez ? Donc là, on a tous nos éléments dans notre transsubstantiation. Hein, et il reçoit la bénédiction. Et alors c'est ça, il faut comparer. Alors c'était les pères de l'Église qui s'amusaient à faire toutes ces comparaisons, là, toujours. Donc Isaac, c'est comme la partie corporelle, notre partie corporelle, qui aime le bon repas. Hein, on veut un bon repas. Rebecca, c'est l'âme. Hein, c'est celle qui voit de l'intérieur. Voilà. Et ensuite, vous avez Ésaü, c'est le pain, d'accord? Et Jacob, c'est Jésus sous les apparences du pain. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est la bénédiction hein, est donnée. Alors, c'est vrai que je vais un peu vite, il faudrait relire le texte, mais enfin, vous vous souvenez, en gros, ça veut dire qu'il y a la bénédiction qui correspond à la consécration, à la messe. Eh bien, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'apparence du pain, c'est-à-dire c'est l'apparence d'Ésaü, avec cette peau virile qui est posée sur le bras hein, d'Ésaü. Mais il dit, j'entends la voix de Jacob, c'est bizarre. Et donc nous, c'est pareil à la messe. On dit, l'apparence, qu'est-ce que vous recevez? On dit, mais c'est l'apparence du pain, ce que vous avez mangé ce matin, ceux qui sont allés à la messe, à l'apparence, le goût du pain. Mais on a entendu la voix de Jésus, ceci est mon corps. Hein? Et donc c'est pour ça que nos sens sont trompés dans l'Eucharistie, sauf un. Oui, parce qu'on entend Jésus qui parle, ceci est mon corps. Comme là, ils entendent Jacob, hein, c'est la voix de Jacob, c'est pas la bonne voix. Enfin si, c'est la bonne voix, mais c'est la mauvaise apparence. Alors, la transsubstantiation, vous voyez, c'était Thomas d'Aquin, saint Thomas, qui disait qu'il y avait plusieurs miracles hein, dans l'Eucharistie. Le premier miracle, eh bien, c'est que à la messe, le pain est transformé en corps du Christ. S'il n'y avait qu'un seul miracle, au moment où le prêtre dit « ceci est mon corps », on devrait voir Jésus ressuscité. Comme sainte Faustine, vous voyez, qui voit Jésus avec les rayons d'amour et tout ça, hein, ou Marguerite Marie, ou tous ceux qui ont vu, voilà. Alors, s'il n'y avait qu'un seul miracle, alors c'est possible déjà qu'on mourrait tous. Peut-être qu'on aurait tous une crise cardiaque, parce qu'on nous dit dans la Bible « nul ne peut voir Dieu sans mourir ». Donc peut-être qu'on mourrait tous à la consécration, on verrait le Christ ressuscité avec la gloire de Dieu, et je ne sais pas si on en survivrait, d'accord? C'est possible qu'on mourrait tous. Mais supposons qu'on ne meure pas tous, hein, au moment où on verrait d'un coup Jésus dans sa gloire sur l'autel, parce qu'il est là, vraiment, hein, eh bien peut-être qu'on se sentirait nul, on se dirait « mais moi je ne peux pas l'approcher, il y a tellement de sainteté, hein, il y a tellement de perfection dans ce Jésus, et moi je suis tellement pauvre intérieurement, ce n'est pas pour moi la messe ». Mais voilà, Dieu n'a pas voulu nous écraser par sa sainteté, sa beauté, par son incarnation. Au contraire, hein, il est venu eh bien, nous rencontrer pour nous visiter et pour nous relever, pour nous guérir, nous purifier et nous relever. Et donc le deuxième miracle qui va avec le premier, c'est les apparences du pain sont miraculeusement maintenues en existence sans le contenu. Il n'y a plus le pain dedans, mais il y a Jésus. D'accord ? Et donc, c'est pour ça qu'on dit les saintes espèces. Hein, les saintes espèces, elles sont saintes. Elles sont miraculeuses, parce qu'en fait, elles ne devraient pas exister. C'est un deuxième miracle. Hein, c'est-à-dire que les apparences du pain sont maintenues en existence. Dans la nature, ça n'existe pas. C'est-à-dire, dans la nature, quand je vois une table, c'est une table. Les apparences, hein, c'est ce qu'il me dit, ça, c'est du bois. La substance, c'est vraiment du bois. C'est pas autre chose. Voilà. Mais il n'y a qu'une exception, hein, c'est l'Eucharistie. Vous avez les apparences de quelque chose qui ne correspond pas à ce que c'est. Hein, voilà. Alors s'il le fait, c'est pour se donner en nourriture. L'Eucharistie est d'abord fait pour être mangé. Ceci est mon corps, prenez, mangez. Hein. Mais en même temps, eh bien, c'est pour qu'on puisse le rencontrer, l'adorer hein, et venir passer du temps en sa présence. L'Eucharistie continue, étant l'incarnation. L'incarnation, c'est-à-dire cette incarnation, il y a 2000 ans, est prolongée, étendue dans cette petite hostie. Alors ensuite, le troisième, alors c'est pour ça que, ici je vois vous communier de manière très digne, très solennelle, c'est bien, félicitations, curé, voilà. Mais c'est vrai que moi je dis toujours dans les paroisses que je visite, voilà, Jésus il fait ce miracle, de venir sous les apparences du pain, ça veut dire qu'il faut faire attention à ces apparences. Hein. Est-ce que je profane, vous voyez, c'est la question de la profanation, est-ce que je profane, je peux profaner les apparences, hein, c'est-à-dire je vais pas trop parler de ça, enfin ça touche la question des miracles eucharistiques, vous avez ces miracles eucharistiques dans l'Église. Qu'est-ce que c'est que les miracles eucharistiques? C'est comme si le deuxième miracle, il fait un peu défaut, vous voyez? C'est-à-dire qu'on voit un petit peu de Jésus, pas trop quand même, parce que sinon hein, on serait écrasé, mais un petit peu de lui-même, un petit peu de son visage, c'est comme si, il y a, en fait c'est un sous-miracle le miracle eucharistique. C'est-à-dire Jésus fait que la moitié du job, vous voyez, il fait que la moitié, c'est-à-dire qu'il n'est pas complètement caché sous les apparences du pain. Hein. Le vrai miracle, c'est l'Eucharistie cachée. Et donc, c'est vrai que si je communie, bon, sur la langue, je reçois le Seigneur très bien, si je communie sur la main, eh bien, je dois faire attention à ce qu'il ne reste pas une petite parcelle hein, d'Eucharistie, parce que sinon, c'est Jésus qui est présent. Alors ça, c'est le troisième signe, c'est est-ce que Jésus... est présent, vous savez, quand je coupe l'hostie en deux, est-ce que je tue Jésus hein? Moi, si on me coupe en deux, je vais mourir. Bon, si vous m'arrachez un cheveu, je vais dire aïe, d'accord? C'est-à-dire qu'on est présent hein, sous la forme d'immensité, c'est-à-dire que là où est la partie principale, bon, c'est moi qui suis vivant, hein, voilà. Mais Jésus, c'est différent, vous voyez? C'est-à-dire que Jésus n'est pas présent de cette manière-là sous les apparences du pain. Quand je coupe l'hostie en deux, je tue pas Jésus. Alors le prêtre coupe l'hostie en deux pour montrer, c'est pour signifier qu'il y a la mort de Jésus, là dans l'Eucharistie. Hein, c'est-à-dire qu'il vient avec sa mort et aussi sa résurrection. Hein. J'ai l'agneau immolé, il est à la fois mort et ressuscité. Vous avez ces deux dimensions dans l'Eucharistie. Si on est mort, on est par terre, on ne bouge pas. Mais ici, on a l'agneau qui est à la fois, hein, c'est le symbole eucharistique, qui est à la fois immolé, donc mort, mais en même temps, revenu de la mort, debout, ressuscité. On a Jésus mort et ressuscité. Donc dans l'Eucharistie, j'ai sa mort, ou son amour qui va jusqu'à mourir, et sa victoire hein, sur la mort, sa résurrection. Alors Jésus est présent sous forme de substance, hein, ça veut dire qu'en gros, si je coupe Jésus en deux, eh bien j'ai autant Jésus dans la première partie de l'hostie que dans la deuxième partie de l'hostie. D'accord ? Et c'est pour ça que si vous mangez une très grosse hostie, hein, ou alors si vous mangez une petite parcelle, parce que le prêtre a mal compté, il est obligé de couper en 10 la dernière hostie qui reste, et que vous avez une petite miette, eh bien vous avez Jésus autant, hein, parce qu'il est présent sous mode de substance, d'accord? Mais c'est pour ça que je disais, si on communie sur la main, il faut faire attention de ne pas laisser une petite parcelle, parce qu'une petite parcelle, c'est Jésus autant hein, que la grande partie. Donc c'est Jésus qui se démultiplie, hein, il démultiplie sa présence pour se donner à nous. Alors, ensuite, dans ces miracles hein, de l'Eucharistie, on peut dire, j'en souligne encore Justin, de la transsubstantiation, c'est, vous savez, cette nourriture, elle est plus forte que nous. Qu'est-ce que je veux dire? Si je prends un exemple, si vous mangez, par exemple, tous les jours du poulet, bon, c'est très bien de manger du poulet, mais est-ce que vous allez petit à petit être transformé en poulet? Vous voyez, avoir des plumes qui vont se mettre à vous pousser dans le dos, hein, des ailes qui vont arriver... Non, parce que on est, voilà, notre système de digestion est plus fort, c'est-à-dire que la nourriture est transformée en nous. D'accord ? C'est comme ça que ça marche dans la nature. Enfin, c'est comme ça que bon Dieu a voulu faire. Sauf une où c'est le contraire, c'est l'Eucharistie. Cette fois, c'est la nourriture de l'Eucharistie qui est plus forte. Et ce n'est pas vous qui transformez Jésus en vous, mais vous êtes transformé en Jésus-Christ. Vous devenez un nouveau Jésus. Devenez ce que hein, vous recevez, on le chante, c'est les paroles de saint Augustin. C'est-à-dire, je mange celui qui me transforme en lui-même. Voyez. Donc en fait, dans l'Eucharistie, saint Thomas nous montrait qu'il y avait comme 8 miracles hein, qui nous sont donnés. Et c'est là le plus grand des miracles, c'est cette rencontre avec Jésus ressuscité qui vient pour nous. Alors, je parlais de saint Augustin. Hein, saint Augustin disait à propos de Jésus dans l'Eucharistie, voilà, tout puissant qu'il soit, il n'a rien pu faire de plus grand. Hein, alors, c'est Dieu, c'est saint Augustin qui dit au nom de Dieu, tout puissant que Dieu soit, il n'a rien pu faire de plus grand que l'Eucharistie. Tout sage qu'il soit, il n'a rien pu trouver de plus admirable dans sa sagesse infinie. Et tout riche qu'il soit, il n'a plus rien à nous donner. En d'autres mots, quand Dieu le Père nous donne cette petite hostie, Dieu ne sait pas, hein, il ne peut pas nous donner davantage. Si vous pensez à quelque chose de plus grand que l'hostie, dites-le à Dieu le Père. Hein. Mais en fait, Dieu ne peut pas parce qu'en nous donnant hein, l'Eucharistie, il nous donne son Fils. Et quand il nous a donné son Fils, qu'est-ce que vous voulez que Dieu le Père nous donne davantage? Et de son Fils, il nous comble de son Esprit Saint. Alors, venons à des petits conseils, j'en ai déjà parlé, hein, j'en ai déjà donné quelques-uns. Pour les conseils, il faut comprendre que c'est des conseils, c'est plutôt des choses à éviter, hein, plutôt que des choses à faire. Parce que il s'agit d'une relation. Hein. Est-ce que quand deux personnes se rencontrent, est-ce qu'il y a des conseils? Bien sûr, on va essayer d'être poli, on va essayer de penser à l'autre, on va essayer de pas trop penser à soi, on va essayer de, voilà, d'accueillir l'autre tel qu'il est. Hein. Donc c'est ce que nous sommes invités à faire avec le Seigneur, c'est d'arriver à vivre ce décentrement, me décentrer de moi-même pour me centrer sur Jésus-Christ. Ça, c'est la prière, mais c'est tout spécialement l'adoration, c'est passer du moi au toi, hein. Passer de ma volonté pour Dieu à ta volonté. C'est quoi, Seigneur, ta volonté, hein. Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, ça c'est ma volonté, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc c'est toujours notre prière, Seigneur, voilà, donne-moi, hein, cette croix, éloigne-la, change ceci, transforme cela, hein. Permet que ceci se réalise, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc la prière chrétienne, c'est toujours passer de ma volonté, ma vision sur les autres, sur le monde, à la volonté de Dieu et la vision de Jésus, hein, sur les autres et sur moi et sur ce qu'il faut faire. Alors c'est sûr que l'adoration eucharistique va m'aider à vivre ce décentrement. Souvent on dit, mais c'est une question qu'on pose toujours, alors maintenant je l'intègre carrément dans le topo, quelle est la différence entre prier devant le Saint-Sacrement et prier chez moi, en silence, entre l'oraison et l'adoration? Ah, ça c'est encore les questions, il n'y a que les Français qui se posent ces questions-là. Dans le milieu anglophone, j'ai jamais vu quelqu'un qui a eu cette pensée-là, mais nous en France, on décortique, alors décortiquons. Alors en même temps, c'est une bonne question, hein. On peut dire, alors je le prends de manière très simple, hein, voilà, l'oraison c'est le cœur à cœur, l'adoration c'est le face à face. Alors ce qui compte c'est l'oraison, c'est le cœur à cœur. Le but c'est quoi? C'est de vivre une relation d'amour avec Jésus qui est dans mon cœur, hein, c'est sûr, c'est ça qui compte. Le problème c'est que de temps en temps, en voulant passer de moi au toi, eh bien, on passe du moi au moi, vous voyez. En fait, très souvent, on reste un peu centré sur soi-même. Et c'était un franciscain du Bronx qui disait ça à New York pour les Youth 2000, vous savez, les Jeunesse 2000. Et il disait, vous savez, n'oublions jamais qu'il existe deux trinités en nous. Alors, tout le monde, deux trinités. Alors, il disait, bah oui, la première trinité, alors c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit reçus dans notre cœur le jour du baptême. Très bien. Et la deuxième trinité, c'est « me, myself and I ». Moi, personnellement, je. Et alors, le problème, c'est que de temps en temps, on veut passer du « moi » au « toi », mais en fait, on passe du « moi » au « moi » ou au « sur moi » ou... voilà. Et donc, vous comprenez que, là, je parle au niveau psychologique, c'est difficile d'entrer en contact avec quelqu'un qui est dans son cœur. Il n'y a pas l'altérité. Enfin, si, il y a l'altérité, mais elle n'est pas facile, hein. Et donc, le face-à-face de l'adoration, c'est un chemin, un moyen que le Seigneur me donne dans la surabondance de son amour pour m'aider à vivre le cœur à cœur. Vous voyez, je passe par le face-à-face. Parce que quand je communique avec quelqu'un, eh bien, il y a l'altérité. Je suis face à la personne, je le regarde, je l'écoute, Hein, c'est le curé d'Ars qui disait à ce paysan, « Qu'est-ce que tu fais le matin ?» Il était là, il priait tous les matins dans le tabernacle. Il disait, « Je l'avise, il m'avise. » Hein, c'est ça l'adoration. Je le regarde, je l'écoute, je lui parle, il me parle. Donc c'est cette relation d'altérité avec celui qui est là face à moi. Et donc vous comprenez que ce face-à-face de l'adoration me permet de plonger, de vivre ce cœur à cœur. Hein, de vivre ce cœur à cœur. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a des communautés religieuses dans la tradition monastique qui n'ont pas eu la pratique de l'adoration eucharistique. Hein, faut reconnaître, vous regardez des grandes familles très nobles et très illustres qui n'ont pas cette dimension d'adorer le Saint-Sacrement. Voilà. Donc c'est pour ça que ce n'est pas le chemin obligatoire. Hein. Il y en a qui ont cette capacité de faire une vraie vie d'oraison sans passer par l'adoration. Mais, je mets quand même des mais, moi je vois bien dans ma paroisse, hein, on a peut-être 400 paroissiens, des gens qui font une vraie heure d'oraison dans leur cœur, chez eux. J'en ai peut-être 3 ou 4, pas plus que le nombre de doigts de ma main. Par contre, des gens qui arrivent à venir prier une heure par semaine, en quittant leur lieu de vie pour venir passer une heure avec le Seigneur dans l'Eucharistie et vivre ce cœur à cœur, hein, dans ce face-à-face, eh bien là, par contre, on en a beaucoup plus. Alors, c'est pour ça que cette altérité, hein, de l'adoration, je suis face à quelqu'un, et ça me permet de vivre la rencontre avec Jésus qui est en moi. Alors, voilà, donc... Le but de l'adoration, c'est de se dire que je suis invité. Alors je vais prendre Saint-Pierre Julien Aymar, je vais lire deux, trois citations. « Regardez l'heure d'adoration qui vous est échue comme une heure du paradis. Allez-y comme on va au ciel, au banquet divin. Cette heure sera désirée, saluée avec bonheur. Entretenez-en suavement le désir dans votre cœur. Dites-vous, dans 4 heures, dans 2 heures, dans 1 heure, j'irai à l'audience de grâce et d'amour de notre Seigneur. Il m'a invité, il m'attend, il me désire. » Alors c'est important de savoir préparer son cœur, comme on dit. Hein, ça c'était Antoine de Saint-Exupéry, hein, le renard, et voilà, il prépare ton cœur, prépare la rencontre. Hein. C'est très beau. Et c'est vrai que souvent, on peut avoir deux attitudes. On peut dire, oh là là, j'ai l'adoration, il faut que j'y aille à toute vitesse. On arrive en transpiration parce qu'on a couru comme un fou. On a 5 minutes de retard et tout ça, et voilà. Ou alors, est-ce que je prépare mon cœur? Moi, j'aime bien voir j'ai des neveux et nièces, et un peu plus jeunes. Alors, on voit les jeunes préparer leur fête, leur réveillon. Ils prennent du temps. Comment je vais m'habiller? Qui je vais voir? Qu'est-ce que je vais faire? Prépare dans leur tête la fête. Hein. C'est beau de voir un ado qui prépare une fête, en fait, parce qu'il met son cœur, quoi. Il attend, il désire, il est prêt à rencontrer les personnes qu'il va voir. Et donc, comment moi, je prépare mon adoration? Est-ce que je prépare cette rencontre? Celui qui est là, alors on va dire depuis 2000 ans, oui, depuis 2000 ans, il se rend présent à travers l'Église, hein, mais voilà, il m'a invité, il m'attend, il me désire. On demandait au curé d'Ars, qu'est-ce que fait Jésus dans l'Eucharistie? Il disait, il t'attend. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait dans le tabernacle, pardon? Et le curé d'Ars disait, il t'attend. Hein, il est là, voilà. Alors, je suis invité, hein, je suis invité, je suis même désiré. Alors, ensuite, commencez toutes vos adorations par un acte d'amour. Et vous ouvrirez délicieusement votre âme à son action divine. C'est parce que vous commencez par vous-même que vous vous arrêtez en chemin, ou bien si vous commencez par quelque autre vertu que l'amour, vous faites fausse route. Est-ce que l'enfant n'embrasse pas sa mère avant de lui obéir? L'amour est la seule porte du cœur. Alors, c'est sûr que c'est voilà, c'est le principe d'une amitié, de quelqu'un qu'on aime. On commence par l'amour, la personne. On va rencontrer quelqu'un. Voilà, Seigneur, me voici, Seigneur, je t'aime. Hein, c'est important de ne pas commencer par ses problèmes. On arrive dans la chapelle d'adoration. Seigneur, c'est la catastrophe. Seigneur, c'est terrible ce qui m'arrive. Et alors, on commence dans la chapelle d'adoration avec ses problèmes. On expose à Jésus ses problèmes une fois, deux fois, trois fois, peut-être 4 fois, en se disant peut-être qu'il n'a pas entendu les 3 premières fois. Et on va penser à nos problèmes pendant toute l'heure d'adoration. Et ensuite, on repart un peu frustré avec ses problèmes. Hein, parce qu'en fait, on a adoré nos problèmes. Voilà. Donc, c'est sûr que Saint-Pierre Julien Aymar aimait couper l'adoration en 4 parties. Alors, faut pas être trop scientifique, hein. Voilà, il faut le faire avec son cœur. Hein. Ce qui compte, c'est d'y aller avec son cœur. On n'est pas 15 minutes. Mais quand même, je pense que c'est important. Alors, il reprenait les 4 fins de la messe telles que c'était enseigné dans les anciens catéchismes. Vous savez, on disait la messe, c'est un sacrifice d'action, d'abord d'adoration, d'action de grâce, de réparation et de supplication, de demande. Hein. Et donc, il disait, dans notre adoration, il faut les 4. C'est-à-dire, il faut un temps pour... J'adore le Seigneur pour lui. Hein. On parlera un peu de l'agenouillement juste après. Je l'adore. Je suis là. Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon tout. Je suis là. Hein. Je te donne ma couronne. Repensez ce que je disais. Je jette ma couronne aux pieds de Jésus. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait, mon temps, ma vie, hein, mon énergie, c'est à toi. C'est pour toi. Hein. C'est toi qui en fais ce que tu veux. Voilà. Donc ça, c'est l'adoration. Premier temps. Deuxième temps, Seigneur, merci. Merci d'être là, toi, dans l'Eucharistie. Tu m'as appelé, je suis là. Merci, Seigneur, pour le prêtre qui a consacré cette hostie. Hein? Merci, Seigneur, pour l'Église que tu me donnes. Merci, Seigneur, pour ce que tu m'as donné, les talents hein, que tu m'as donné, qui me donnent tant de joie, qui me permettent de faire tant de choses. Merci Seigneur pour les personnes que j'ai. Merci pour la vie. Hein. Merci pour la vie éternelle. Voilà. Donc un temps pour dire merci. Hein. C'est un décentrement et c'est la grâce de la louange. Vous savez, la louange, c'est ce qui permet de faire circuler et d'attirer les bénédictions du Seigneur. On a besoin de louer le Seigneur. Et même hein, dans les épreuves, de savoir se dire merci Seigneur pour cette épreuve parce que je sais que toi qui es amour dans cette épreuve, tu vas me donner un bien plus grand. Alors ça c'est difficile à dire, hein, mais voilà. Donc merci Seigneur. Ensuite, troisième temps, c'est la réparation. Seigneur, pardon. Pardon. Alors c'est intéressant, je fais une petite... je le dirai juste après. La réparation, je demande pardon pour ceux qui... peut-être qui communient, mais qui ne devraient pas communier, qui ne sont peut-être pas prêts, qui n'ont pas le désir, qui n'ont pas la foi, hein, qui, voilà, de manière automatique, qui reçoivent Jésus dans leur cœur, alors qu'ils ne sont pas disposés intérieurement. Hein. Pardon pour tous ceux qui n'ont pas le temps de prier, pardon pour tous ceux qui ont perdu la foi, et puis pardon pour tous les drames, hein, toutes les souffrances, toutes les violences, toutes les guerres, voilà, il y a tant de pardon. Et puis à la fin... le « s'il te plaît », mais le « s'il te plaît », vous le gardez à la fin, parce que ça, on sait toujours faire, hein, et voilà. Alors, le « s'il te plaît » à la fin. La grâce de la réparation, c'est, vous savez, c'est intéressant de revoir ce qui s'est passé à Gethsémani. Jésus venait de donner son corps et son sang à manger à boire, je dis saint, et ensuite il invite ses disciples à veiller et à prier avec lui. Hein, « Ne pouvez-vous pas veiller une heure avec moi ?» On peut dire que c'est le lien entre la messe, voilà, le jeudi saint, et puis ensuite l'adoration. Veillez et priez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde l'évangile, Jésus a tout donné. Il a passé son temps à donner, à faire du bien, à bénir, à s'occuper des autres. Il n'a jamais rien demandé pour lui-même, sauf une fois, hein, où Jésus va en fait avoir besoin de ses amis. Et c'est ce qui se passe à Gethsémani. Donc Jésus vient de donner son corps, il avait comme appuyé sur le bouton, quoi. Il savait que c'était non réversible. Maintenant, en donnant son corps dans l'Eucharistie, il enclenche toute la passion avec tout ce qu'il allait endurer le lendemain. Et voilà que à Gethsémani, Jésus il voit soudain hein, l'immensité du péché du monde. Hein. Et combien il va devoir offrir, vous savez, un amour plus grand. Hein. On dit toujours, c'est pas le père qui veut un peu plus de sang, il veut le sang de son fils, et il dit « bon, ça va, il y a plein de sang, je suis content ». Non, c'est la rédemption, c'est la substitution. C'est-à-dire que Jésus veut apporter au père un amour qui est plus grand que toute la haine, la colère, le mal que les hommes ont pu apporter. Hein. C'est-à-dire que Jésus veut contrebalancer ce poids terrible du mal dans le monde par un amour qui est plus grand. Hein. Et c'est ça qu'il va apporter par sa rédemption. Et donc Jésus voit tout. Nous, déjà, juste quand on regarde la télévision, on voit tellement d'horreur. Hein, et ça, c'est que aujourd'hui, et encore, c'est un centième, un millième, certainement, de tant d'horreurs qui doivent se passer ailleurs. Jésus voit tout, du premier jusqu'au dernier. Donc c'est sûr qu'il est dans un état de souffrance, enfin d'anxiété, hein, d'agonie terrible. Et à ce moment-là, c'est la seule fois où Jésus va avoir besoin de ses amis. Hein, de ses amis. C'est un peu comme voilà, l'enfant qui va être opéré, il a envie d'avoir la main de sa maman hein, à ce moment-là, au moment où il va passer où il va être endormi. C'est comme le vieillard hein, qui est en train de mourir, qui a envie d'avoir ses proches, hein, si c'est possible. Voilà, c'est un cadeau pour lui d'avoir ses proches qui sont là au moment du grand passage. Et donc ici, c'est Jésus qui dit, voilà, il a besoin des amis. Il a besoin de ses amis pour être avec lui dans ce moment d'immense agonie, où on sait que cette agonie, ce n'est pas simplement de la transpiration, mais c'est même de la transpiration de sang, hein, tellement que son angoisse est intense. Et alors au moment où il se retourne, il voit ses disciples qui ne font pas l'adoration, mais la dodoration. Hein, voilà, ils sont tous endormis. Oh, ils ont dit, oh là là, on va se reposer un peu parce que demain, ça va être une longue journée, on est un peu fatigué, donc on va roupiller un peu. Jésus, tu restes là, t'inquiète pas, on bouge pas, mais on dort. Bon, je sais pas comment c'est passé, mais peut-être un peu comme ça. Et alors Jésus, au moment le plus dramatique, hein, quand il rentrait vraiment dans sa passion, il trouve ses amis endormis. Alors, À ce moment-là, eh bien, c'est la phrase du psaume hein, qu'il a dû chanter. « J'ai cherché les consolateurs, je n'en ai pas trouvé. Hein, » Cette phrase du psaume, c'est Jésus. C'est pour Jésus. Voilà, « J'ai cherché des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. » Alors, heureusement, ça ne s'arrête pas là. Hein, heureusement, ça continue. Et juste après, vous vous souvenez ce qui se passe. Trois fois, Jésus dit « Ne pouvez pas veiller. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. » Et trois fois, il s'endorme. Et alors ensuite, l'Évangile nous dit qu'il y a un ange qui arrive, un ange qui vient consoler le Seigneur, et qui arrive avec un calice de consolation, hein, et qui vient voir le Seigneur et qui vient le consoler. Alors ici, c'est plus les mystiques, vous voyez, à qui Jésus a expliqué, il y a beaucoup de sens, mais plusieurs mystiques ont reçu de Jésus, et bien qu'en fait, cet ange qui est venu consoler Jésus, en fait, a apporté la consolation de tous ses amis qui, dans les siècles à venir, répondraient à son invitation de veiller et prier, hein, de cette invitation « Ne pouvez pas veiller une heure avec moi ». C'est comme si toute cette adoration, hein, en venant prier une heure par semaine, alors vous avez mille autres choses à faire, hein, et mille bonnes raisons pour faire autre chose, et de choisir de sacrifier une heure, hein, donner une heure où on ne fait rien. Bon, on laisse faire Jésus, mais on fait rien. Voilà, donner. Eh bien, c'est comme si, voilà, tous les amis de Jésus des générations à venir, c'est cet ange qui a rassemblé, voyez, tout cet amour que vous avez pour le Seigneur, que vous lui apportez en venant fidèlement veiller et prier avec lui. Parce que ce « ne pouvez pas veiller une heure avec moi », ce n'est pas une parole qui est restée figée hein, dans le temps où pour ces quelques disciples, les trois qui étaient là, mais c'est une parole hein, pour toute l'humanité et que le Seigneur nous adresse encore. Donc on peut dire qu'à partir de ce moment-là, eh bien, le Seigneur a vu voilà, tout cet amour qu'on a pu lui donner. C'est-à-dire c'est cette grâce de la réparation hein, que Jésus explique à Sainte Marguerite Marie à Paray-le-Monial, où en fait, voilà, il explique que je peux suppléer au manquement des autres hein, et je peux aimer pour ceux qui n'aiment pas. Je peux demander pardon pour ceux qui font du mal au Seigneur. Et que cette réparation est importante parce que voilà, le Seigneur voit qu'il a ses amis au moment où il entre dans sa passion. Donc ça, c'est toute la grâce de la réparation. Alors, ensuite, en même temps, bon, je reviens à nos conseils spirituels. C'est sûr que nous, ce qui est compliqué, c'est ça, dans l'adoration. Hein. Voilà, ça, c'est vraiment très compliqué, parce que même moi, hein, je me dis « Oh, j'ai oublié de faire l'office du milieu du jour, ou les vêpres, mon bréviaire, je ne sais pas où il est, entre tous les déplacements à droite, à gauche, j'ai mon téléphone. » Voilà, hein, et donc on commence à faire ses vêpres sur son téléphone. C'est très bien, il n'y a pas de problème en soi, hein, pourquoi pas. Et puis après, quand vous faites vos vêpres, clac, il y a une actualité. Est-ce que tu as pensé à faire ça? Oh mince, j'ai oublié ce truc-là. Et puis clac, il y a un autre truc. Et puis après, on commence à répondre. Et puis il y a un WhatsApp, il y a un signal, il y a un truc. Et puis après, on se met à adorer son téléphone. Voilà. Alors, on n'adore pas son téléphone, mais c'est vrai. Hein, je ne vais pas dire, c'est pas le diable, le téléphone. Hein, mais la question, c'est est-ce que je viens pour le Seigneur ou est-ce que je viens pour mon téléphone. Alors, si j'ai envie de faire mes vêpres ou de lire un... pourquoi pas, hein, il n'y a pas de problème. Mais il faut comprendre que c'est vrai que c'est quand même difficile d'adorer le Saint-Sacrement hein, lorsqu'on a le téléphone qui vibre toutes les 15 secondes dans sa poche. Voilà. La question du livre, c'est pareil. Alors, avoir un livre... En plus, nous, on propose... Alors, je fais la page pub, on propose... On propose le brasier eucharistique. Je crois que vous êtes abonné hein, à la paroisse. Alors, s'il y en a qui veulent s'abonner pour vous, c'est très bien aussi. En même temps, nous, ça nous aide hein, dans notre communauté pour la formation, les séminaristes. Et puis, ça vous donne de savoir aussi tous les événements eucharistiques qu'on organise un peu partout en France et ailleurs. Donc, je laisserai, hein, pour ceux qui veulent, hein, s'il y en a qui veulent s'abonner, c'est un... Très bonne revue, hein, très bonne revue, voilà. Bon, donc je laisserai ça ici, et s'il y en a qui veulent voir comment c'est, j'ai des exemplaires, et bon, bref, ça c'était la page pub, j'arrête la page pub. Souvent, on a un livre. Alors, encore une fois, c'est bien d'avoir, on peut avoir un livre. Hein. La question, c'est est-ce que mon livre fait écran, voyez? Est-ce que, en fait, je viens pour lire, ou est-ce que, en fait, je viens, ou je m'aide du livre, voilà. Et la semaine dernière, à Toulon, il y a eu une petite tension au séminaire, parce que c'était le supérieur du séminaire parlait de comment prier. Voilà. Parce qu'il y avait des séminaristes qui arrivent, ils à peine arrivés devant le Saint-Sacrement, ils commencent à lire et ils passent toute l'heure à prier. Et donc le supérieur a dit non, mais ça va pas ça. Hein, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On peut pas, on vient pas pour lire. Hein, voilà, on vient pas pour lire. Mais on peut lire pour nous aider à nous relancer quand on est dans les distractions, l'aridité, ça c'est sûr. Mais il faut pas que le livre devienne l'écran qui fait qu'en fait je vois plus Jésus, hein, dans la foi bien sûr, mais je pense plus à lui, mais je pense que à mon bouquin. Alors l'adoration. Donc oui, on peut hein, céder, encore une fois, mais il ne faut pas que ça soit toute l'heure. Il me semble, ce qui est important, c'est qu'on est, on est toujours une bonne partie de l'adoration où je suis vraiment sans rien. Hein. C'est-à-dire que je suis à l'écoute du Seigneur. On me dit toujours, est-ce que c'est aimer Jésus de tout son cœur ? Oui, mais c'est surtout l'adoration, se laisser aimé par le Saint-Esprit. Et c'est plus difficile de se laisser regarder avec toutes nos misères, nos pauvretés, plutôt que d'être dans cette activité d'aimer le Seigneur. Donc l'adoration, c'est de passer d'aimer à se laisser aimer. Seigneur, je suis là. Parle, ton serviteur, écoute. Et nous, très souvent, c'est écoute, Seigneur, ton serviteur, parle. Hein, voilà. Alors, parlez un peu si ça vous fait du bien. Jésus est toujours très content, il nous aime, hein, vous savez. Mais ce qui compte, c'est pas parle, c'est pas écoute Seigneur, j'ai plein de choses à te dire, mais c'est parle Seigneur, ton serviteur écoute. Encore ce décentrement hein, de ça. Il faut pas avoir peur d'être nul. C'est ça que le Seigneur aime, c'est notre pauvreté, hein, c'est qu'on se sente nul. Mais vous savez bien que si vous pouvez lire la prière de Crignon de Montfort, la plus sublime, et lui dire Jésus, j'ai préparé ça pour toi. Non, le Seigneur, il sait bien que c'est pas vous qui avez écrit ça, hein, et vous allez pas impressionner le Seigneur en disant oh pétard, cette prière qu'il vient de me faire, elle est incroyable. Alors là, je vais donner double dose. Non, le Seigneur, il préfère la pauvreté de votre cœur. Seigneur, j'ai rien à te donner, je suis nul, j'arrive pas à prier, je suis toujours distrait. Hein, c'est ça que le Seigneur aime. C'est ce que nous sommes, tel que nous sommes. Alors, mais on peut bien sûr céder, hein, encore une fois, des belles prières des autres, mais que ça soit pas que notre prière. Hein, que, voilà, le Seigneur préfère notre pauvreté. C'est saint Aimar qui dit « Allez à notre Seigneur comme vous êtes, ayez une méditation naturelle, épuisez votre fond de piété et d'amour avant de vous servir de livre, aimez le livre inépuisable de l'humilité d'amour. Qu'un livre pieux vous accompagne pour vous remettre en bonne voie quand l'esprit s'égare, quand vos sens s'assoupissent, c'est très bien, mais rappelez-vous que le bon maître préfère la pauvreté de notre cœur aux plus sublimes pensées et affections empruntées des autres. Hein, » voilà. Donc, maintenant, il y a la question de la parole de Dieu. C'est un peu différent, la parole de Dieu. Hein, enfin, c'est très différent de toutes les paroles humaines, ça c'est sûr. On dit que lorsqu'on vient devant le Saint-Sacrement, en fait, qu'est-ce qu'il faut ? C'est poser, c'est les vertus théologales, c'est poser l'acte de foi, d'espérance, de charité. D'accord ? En soi, si je vais être puriste dans l'adoration, je prends rien. Même pas le brasier eucharistique, pas mon téléphone, pas les lots, pas le chapelet, pas la Bible, rien. Je pose l'acte de foi et de charité. Seigneur, je crois. Seigneur, je te désire. Hein. Seigneur, je t'aime. Juste. Et ça, par ces trois actes de vertu théologale, j'entre en contact. Tac, j'ai branché, connecté sur Jésus dans l'Eucharistie. Ensuite, je laisse faire. Hein. Alors, bien sûr, ça, c'est si on était des anges et si les choses étaient vraiment faciles. Mais c'est ça qui compte, hein, c'est de se dire, c'est poser l'acte de foi, l'acte d'espérance, l'acte de charité. Ces trois vertus du baptême me mettent en contact avec Jésus dans l'Eucharistie et mon adoration devient fructueuse. C'est-à-dire Jésus travaille, hein, Jésus travaille et agit dans mon cœur. Alors après, encore une fois, je vais pouvoir alors, utiliser la parole de Dieu. La parole de Dieu... Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Le chemin, la vérité, c'est la parole de Dieu. Hein. La vie, c'est l'Eucharistie. Alors, on peut le dire différemment. Mais pour aller à la vie divine, j'ai besoin de connaître hein, qui est ce Jésus. Alors, c'est pour ça que ce qui est intéressant, Saint-Pierre Julien Aimard dit ceci. Alors, il disait qu'il y avait trois types d'adorateurs. Il y a moyen... Moyen plus, très bien. Voilà. Alors, le moyen, c'est les gens qui arrivent. Alors, je vais d'abord lire et puis ensuite je commenterai. Il est peu de personnes qui pensent aux vertus, à la vie, de l'état de notre Seigneur au Saint-Sacrement. On le traite comme une statue. On croit qu'il n'est là que pour pardonner et recevoir nos prières. C'est faux. Notre Seigneur vit et agit. Regardez-le, étudiez-le, imitez-le. Si vous lisez l'Évangile, transportez-le en l'Eucharistie et de l'Eucharistie en vous. Vous avez alors une bien plus grande puissance. L'Évangile s'illumine. Vous avez sous vos yeux et réellement la continuation de ce que vous y lisez. Alors, le moyen, c'est ceux qui vont adorer comme on allume une bougie devant une statue. C'est-à-dire, en gros, on se dit, je vais envoyer une prière, on verra bien si ça marche, on va attendre un peu quand même, le temps que ça monte et que ça redescende, hein. Et en gros, on va adorer en envoyant des bouteilles à la mer, en se disant, à la grâce de Dieu, j'ai rien à perdre et peut-être à gagner. Alors, ça, voilà, le Seigneur n'est pas... Alors, c'est bien, déjà, hein, d'aller prier comme ça, c'est pas mauvais, hein, le Seigneur, il prend tout, hein, je veux dire, voilà. Mais ça suffit pas, hein, parce que, voilà. Alors après, il y a deuxième niveau, c'est ceux qui disent, vous savez, on utilise cette expression qui est belle, mais qui est insuffisante, je vais me faire bronzer, hein, devant le soleil eucharistique. Alors ça, c'est très beau. C'est-à-dire qu'en fait, je viens pour recevoir, hein. Alors c'est bien, c'est-à-dire je fais rien, mais je laisse Jésus me transformer, je laisse Jésus me guérir, hein, je laisse Jésus, voilà, me donner ce qu'il veut me donner, son amour, son Esprit Saint. Donc en fait, on va adorer pour recevoir. Hein, vous voyez, on n'y va pas trop pour soi, mais en fait, on va, voilà, Seigneur, maintenant, viens travailler en mon cœur. Alors ça, c'est déjà mieux, parce qu'il y a une dimension d'accueillir ce que Dieu veut faire dans notre vie. Mais ici, Saint Aimar nous invite à passer encore à une étape supérieure et à nous dire... Ah là, il y a quelqu'un qui est là. C'est quoi, Seigneur, ta volonté? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aimer? Qu'est-ce que tu attends de moi, hein? Et donc, de savoir qu'en fait, voilà, si le Seigneur, il est bien vivant, hein, comme je disais hier, il y a quelqu'un dans l'hostie. Hein, il y a quelqu'un dans l'hostie, dans le sens que Jésus est là et que Jésus, il n'est pas mort. Si, il est mort, mais il est ressuscité. Donc, il veut entrer en dialogue avec nous. Et donc, c'est pour ça que Saint-Pierre Jérémin nous invite... à prendre notre évangile, et puis lorsqu'on voit Jésus, vous pouvez rajouter Jésus dans l'Eucharistie, hein, où ce que Jésus fait et dit, vous le mettez là dans l'hostie, voyez, de sorte que, en fait, eh bien, tout ce que Jésus a fait sur terre, tout ce qu'il a dit, il le fait pour moi, et il le dit pour moi dans l'Eucharistie. Hein. Et à ce moment-là, eh bien, comme il dit, voilà, l'évangile s'illumine, vous avez sous les yeux réellement la continuation. Regardez les amis de Jésus. Comment ils ont fait pour adorer Jésus? Comment ils se sont tenus? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, faites comme eux, parce que vous avez le même Jésus qui est là. Regardez Marie-Madeleine au pied de Jésus. Regardez les mages qui vont faire tous ces kilomètres pour adorer le Verbe incarné. Et nous, on fait quelques kilomètres, hein, pour adorer le même Jésus incarné dans l'Eucharistie. Voilà, donc nous sommes appelés, vous voyez, à partir de l'Évangile, eh bien, à se dire que Jésus... Tous ces passages de l'Évangile ne sont pas comme figés dans le temps, mais ils sont rendus vivants par Jésus qui est là, mais qui va reproduire pour vous ce qu'il fait dans l'Évangile. On n'y était pas il y a 2000 ans, mais on l'a pour nous ici, et il va refaire pour nous ce qu'il a fait pour les personnes de son époque. D'accord ? Donc essayez de faire ce lien, vous voyez, Jésus dans l'Eucharistie, hein, et essayez de savoir, Seigneur, c'est quoi que je peux faire pour te faire plaisir, hein. Et donc après, on rentre dans toute cette vie contemplative, hein, où on laisse Jésus parler à notre cœur. Alors, ensuite, il y a la question, hein, les deux questions, distraction et aridité. C'était un adorateur qui témoignait de ceci, c'était amusant. Il avait commencé cette heure d'adoration, on avait invité, le curé avait dit, il faut adorer une heure par semaine. Alors lui, c'était un bon paroissien, obéissant, il dit, bon, si le curé le dit... Peut-être qu'il a raison, après tout, on ne sait pas. Donc, il a pris son heure d'adoration. Très bien. Et ensuite, il a commencé à adorer le Saint-Sacrement. Et wow, ce truc, c'est fou, hein ? C'est incroyable. Je sens cet amour, je sens cette joie, mais je sens cette présence. Mais il y a quelqu'un, hein ? Et alors, il partait tout édifié, plein de joie, de zèle, enthousiaste, etc. Et puis, il continue, très heureux. Et puis, un jour, il vient adorer, il fait pas beau, il fait froid, et puis un peu fatigué. Et puis, au bout d'un certain temps, il regarde sa montre discrètement, en faisant comme si Jésus voyait pas. Et puis, il voit, oh là là, que 5 minutes, encore 55 minutes, comment je vais faire? Et alors, il est dit que cette personne, elle s'est dit, non mais là ça marche pas. Ça marche pas comme les autres fois, ça marche pas. Et alors elle est allée voir, il est allé voir son curé après, il a dit, mon père, il y a un problème, vous êtes trompé, vous avez mis une hostie non consacrée dans le tabernacle parce que celle-là, elle ne marche pas. Hein, elle ne marche pas, elle ne fait rien cette hostie-là, elle est de mauvaise qualité. Là, voilà. Alors, c'est sûr que vous comprenez que lorsqu'on commence à s'attacher aux consolations et aux grâces que le Seigneur nous donne, eh bien le Seigneur, à ce moment-là, dans sa grande pédagogie, eh bien il va enlever ce ressenti, même si, vous savez, Jésus l'a dit, mon Père et moi travaillons sans cesse. C'est-à-dire que quand vous êtes devant le Saint-Sacrement, pendant une heure, Jésus travaille dans votre cœur. Hein, voilà. Mon Père et moi travaillons sans cesse. Donc, en même temps, les personnes qui disent, moi j'arrête l'adoration parce que je ne ressens plus rien, non, on ne va pas adorer pour ressentir. Jésus n'a pas dit, le Père cherche des adorateurs qui ressentent plein de choses. Non, le Père cherche des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. L'esprit et la vérité. Hein. La vérité, bah, c'est sa présence qui est là, et c'est l'évangile. Et puis l'esprit, l'esprit, c'est pas que des petites consolations sensibles qui nous font du bien, enfin qui nous font ressentir je ne sais quoi. L'esprit, t'entends, c'est le feu de l'esprit de Dieu qui dit, hein, mon Père émonde la vigne pour qu'elle porte plus de fruits. Donc c'est possible que votre adoration, le Père, il coupe quelque chose en vous et ça fait mal. Hein, ça peut être le désert, ça peut être l'aridité. Le feu de l'amour de Dieu, ça peut être ressenti différemment. Mais si Dieu veut travailler, purifier des choses, ça va faire mal. Hein. Donc, notre adoration, vous comprenez, quand on dit « moi j'arrête l'adoration car je ne ressens plus rien », non, l'attitude juste, c'est se dire « je vais adorer ». Déjà, c'est le premier commandement. Hein, j'y vais pour lui. Et puis ensuite, s'il veut me donner des grâces sensibles, tant mieux. Mais s'il veut me donner aucune grâce sensible parce qu'il veut les donner soit à un autre, soit c'est qu'en fait, il ne veut pas parce, pour que je m'attache à lui hein, et non pas aux grâces que je reçois, laissez le bon Dieu faire. Hein. Donc ce qui compte, c'est « j'y vais parce qu'il m'appelle ». J'y vais par amour, je suis là pour lui. Et le reste, je m'en fiche. Hein. Et tant en temps, vous avez une heure facile, tant mieux. Une heure difficile, voilà, j'y vais pour lui. Je me souviens d'un petit interview, c'était à Lille, c'était pas ici, et j'étais interviewé sur RCF par une jeune stagiaire très sympathique, mais apparemment elle n'avait pas fait beaucoup de théologie, encore moins de catéchisme, ou plutôt pas beaucoup de catéchisme, encore moins de théologie. Et alors, elle me pose cette question, on était en train de lancer l'adoration, et elle me dit, mon père... En direct, hein, vous savez. Est-ce que l'adoration eucharistique, c'est pas comme l'adoration du veau d'or? Bon, me dit ça en direct. Alors, bon, moi, je suis là, et il y a des gens qui écoutent. Je vais essayer de pas trop l'envoyer balader en direct, la pauvre. Elle pensait que c'était vraiment une question pertinente, quoi. Voilà. Voilà. Et alors, moi, je lui ai dit, qu'est-ce que je lui dise? Moi, je peux rien dire. Je lui ai juste dit, écoutez, si vous adorez l'ostensoir, qui est peut-être en or, oui, c'est l'adoration du veau d'or. Mais si vous adorez celui qui est dans l'ostensoir, c'est le premier commandement, point barre. Hein, il n'y a pas à réfléchir. Voilà. Et c'est tout. J'y vais pour lui. Hein, c'est le premier commandement. Voilà. Alors, c'est pour ça que cet exemple me pousse à citer Benoît XVI encore. C'était à propos de l'agenouillement. Vous savez, nous, en France, on est très fiers. Et donc, on nous dit, le Christ est ressuscité, donc le chrétien, il doit être debout. Ah, ça, c'est bien, ça. Moi, on est debout, hein. Mais surtout pas genoux. Voilà. Et alors, Benoît XVI, bien sûr qu'il faut être debout pour s'engager, pour se battre, pour lutter. Il faut y aller, hein. Je veux dire, on n'est pas là pour être des larves qui dorment ou je ne sais quoi. Mais il faut comprendre hein, que avant de se mettre debout pour s'engager, d'abord, il faut être disciple au pied du Seigneur. Hein. Il faut découvrir c'est quoi, Seigneur, ta volonté, qu'est-ce que tu veux que je fasse. Et ce que Benoît XVI nous rappelle, c'est qu'en fait, d'abord, il y en a un qui s'est mis à genoux devant sa créature pour lui laver les pieds sales. Hein. Et cette personne s'appelle Jésus. Et de se dire que lui, Jésus, notre Dieu, il se met à genoux devant sa créature, ça c'est fou, ça c'est pas normal. Là, il y a un problème, je suis d'accord. Le créateur qui se met à genoux devant sa créature, ça va pas. Hein. Mais c'est comme ça qu'il nous aime et c'est comme ça qu'il a voulu faire les choses. Donc lui, il se met à genoux devant nous et nous, on refuse de se mettre à genoux devant lui. Hein. Ça, c'est le mystère de l'iniquité. Alors, Benoît XVI disait ceci. Alors, l'adoration eucharistique est le remède le plus valable et le plus radical contre les idolâtries. S'agenouiller devant l'Eucharistie est une profession de liberté. Celui qui s'incline devant Jésus ne peut et ne doit se prosterner devant aucun pouvoir terrestre, aussi fort soit-il. Nous, les chrétiens, nous nous prosternons devant un Dieu qui s'est d'abord penché vers l'homme pour le secourir, lui redonner la vie. Il s'est agenouillé devant nous pour nous laver les pieds sales. Celui devant lequel nous nous prosternons ne nous juge pas, il ne nous écrase pas, mais il nous libère, il nous transforme. Donc l'adoration, je me mets aux pieds du Seigneur, mais pour me laisser guérir, libérer, transformer, hein, et ensuite pour me laisser aller, évidemment. Et lorsque, eh bien, lorsque j'ai adoré le Seigneur, ensuite, eh bien, je vais annoncer ce que j'ai reçu dans mon cœur. Vous savez, au Moyen-Âge, la question du genou, parce que, en fait, le genou, dans la Bible, alors, je ne sais pas si dans la Bible ou si c'était pour je crois que c'est dans l'Empire romain, le soldat qui mettait son genou devant l'empereur, le genou, c'est la force. En s'inclinant, en mettant son genou par terre, c'est qu'il donne sa force à l'empereur, en disant « ma force, elle est pour toi, et je suis prêt à donner ma vie pour toi ». Et donc, c'est dans ce sens-là, mon genou, voilà, alors après, physiquement, si j'ai une prothèse, je ne peux pas me mettre à genoux, on comprend bien que c'est pas le fait, c'est le geste physique n'est pas une finalité en soi, c'est l'attitude du cœur qui compte, évidemment, mais mettre son corps en adoration aide à mettre notre cœur en adoration. Ça va ensemble. Hein. On est quand même personne unie entre notre corps et notre âme. Et c'est vrai que l'agenouillement nous aide. Hein. Mais encore une fois, ce n'est pas une finalité. Et je peux me mettre à genoux et être un gros hypocrite dans mon cœur. Hein, et en fait, rejeter le Seigneur avec... Hein, voilà, ça, on est d'accord. Hein, voilà. Mais ici, je repense au Moyen-Âge, quand il représentait le diable... Il le mettait les genoux à l'envers, comme l'autruche. Vous savez, l'autruche, je crois que c'est le seul animal qui a le genou à l'envers. Hein, parce que le diable, c'est celui qui ne peut pas s'agenouiller. Hein, c'est celui qui refuse l'adoration. Hein, et c'est ce qu'il demande à Jésus. Il a quand même le culot, il faut le faire, de dire à Jésus, écoute, je te donnerai tout ça, tout ce pouvoir-là qui est devant toi, si tu m'adores, hein, si tu te prosternes devant moi. Hein, le diable a le culot de dire à Jésus de l'adorer. Et bien sûr, Jésus nous renvoie vers le premier commandement. Tu adoreras le Seigneur, à lui seul tu rendras un culte. Alors, toute cette question de l'agenouillement, hein, comme on dit, le but c'est pas de penser à ses genoux pendant une heure et d'oublier de penser à Jésus, hein, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que l'agenouillement nous aide à nous mettre dans cette attitude, hein, de corps, mais qui est l'attitude qui aide mon cœur à se mettre devant le Seigneur. Donc encore une fois, c'est toujours bien de commencer... et de partir avec un geste d'agenouillement, hein, ça c'est classique, assez normal. Après, pendant son adoration, quand on a des distractions, souvent il y a l'esprit qui part, bah, juste de remettre son corps quelques minutes en adoration nous aide à remettre notre cœur devant le Seigneur. Alors encore un ou deux points. Ah non, j'ai passé l'heure. Bon, bah, alors je conclue. Non, mais c'est de toute façon, après on dit les mêmes choses. Je voulais juste dire, les distractions, c'est, voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on a des... J'arrive, et puis j'ai ces pensées-là qui tournent dans ma tête. Alors, comprenons qu'on dit toujours, vous savez, l'adoration de nuit, on dit toujours que c'est terrible. Alors, c'est vrai. Ce qui est terrible, c'est pas l'heure d'adoration de nuit, c'est la minute où le réveil sonne. Ça, c'est terrible. Là, je suis d'accord. Voilà. Là, il y a l'instant dramatique du réveil qui sonne, c'est terrible. Mais ensuite, pour ceux qui font l'adoration de nuit, hein, vous savez que c'est une heure, notre esprit est libre. En fait, c'est beaucoup plus facile qu'on arrive à se réveiller, il faut y arriver, hein, et bien de prier devant le Saint-Sacrement la nuit, parce que l'esprit et bien, n'est pas encombré par tout ce qu'on vient de faire et tout ce qu'on doit faire juste après. D'accord ? Et donc, voilà, Sainte Thérèse de Lisieux, vous savez, elle... par rapport à son adoration, alors elle, c'était de jour, ou je ne sais pas, c'était de jour ou de nuit, mais enfin, elle se plaignait souvent au Seigneur parce qu'elle s'endormait devant son oraison. Alors bon, elle avait quoi? Elle avait 15 ans, les carmélites, elles dorment 5 heures par nuit, à 15 ans, dormir 5 heures, et ensuite d'être toute la journée à travailler, c'est sûr que dès qu'elle s'arrêtait, poum, elle plongeait, quoi. C'était l'ado d'oration, hein, et elle dit, je devais me désoler, hein, de m'endormir, et elle donne cet exemple très beau en se disant, je me souviens quand j'étais petite fille dans les bras de mon père, la joie que je donnais, hein, même quand j'étais endormie, ou je me souviens que les médecins endorment leurs patients pour les opérer, voilà, hein, donc le Seigneur se souvient que nous sommes pauvreté et misère. Alors, c'est sûr que, vous comprenez, si je m'assoupis devant le Saint-Sacrement parce que je suis fatigué, crevé, le bon Dieu, il est content, hein, ça ne lui pose aucun problème. Maintenant, si je me dis, bon, au lieu d'aller faire la sieste dans mon lit, je vais faire la sieste devant le Saint-Sacrement. Là, c'est différent, vous voyez, c'est-à-dire, on ne va pas dormir, on ne va pas à l'adoration pour dormir, mais si je dors à l'adoration, écoutez, c'est comme ça, voilà, je suis comme je suis, je peux pas, Jésus, il me connaît tel que je suis, et j'ai peut-être beaucoup de choses à offrir, et puis, vous savez, ce venez à moi, hein, il y a plusieurs venez à moi dans l'Évangile, on a dit... la soif, hein, mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et reposez-vous dans un coin désert. Le repos, alors, c'est un repos du cœur, l'adoration, mais c'est vrai que c'est aussi un repos du corps, il faut dire que c'est une heure tranquille, hein, c'est pas fatigant, et je pense que le Seigneur veut aussi nous reposer, hein, nous aider à nous reposer, et c'est un vrai repos physique, certes, parce qu'on s'arrête, hein, mais aussi spirituel, parce que le Seigneur repose notre âme, il console notre âme, hein, il me donne cette douce présence de son esprit, hein, cette eau vive qui vient consoler mon cœur. Alors, je disais les distractions, la nuit, quand on a des pensées, voilà, oui, c'est ça, je disais que l'adoration de nuit en soi, quand je suis réveillé, c'est plus facile parce que mon esprit est libre de prier et de porter, de penser à d'intercéder, hein, au milieu de la nuit, quand tout le monde dort, il y en a un qui veille, c'est très beau, hein, c'est la grande tradition monastique, à la fois d'attendre le jour nouveau, le Seigneur qui revient dans sa gloire, il y a des gens qui veillent, c'est les moines, et de se dire que c'est à la fois le principe de veiller quand tout le monde dort, et en même temps, souvent c'est la nuit qui a le plus de problèmes, de souffrances, hein. Il y a toutes ces personnes qui sont seules, il y a toutes ces pensées suicidaires, il y a plus rien à la télé, qu'est-ce qu'on fait la nuit, hein, donc c'est bien de prier pour tous ceux qui font des bêtises la nuit ou qui souffrent la nuit, qui sont seuls la nuit, et puis en même temps d'attendre le jour nouveau. Et j'aime bien dire, dans le passé, vous savez, il y a ces deux dimensions dans l'Église, la vie contemplative, la vie active, et on voit que la vie contemplative était portée principalement par les communautés religieuses dans le passé, tous ces jeunes, des centaines de jeunes qui offraient leur jeunesse, leur vie, pour la prière, hein, pour donner à la prière cette force d'intercession. Hein, on pense à Sainte Thérèse de Lisieux, patronne des missions, hein, sans jamais sortir de son Carmel. Et aujourd'hui, moi je pense, là c'est personnel, on n'a plus trop ces communautés religieuses. Il y en a, il en reste, mais très peu. Hein, et je pense que l'Esprit-Saint demande aux braves paroissiens que vous êtes d'assurer ce service de l'intercession. C'est comme il faut ce poids de prière, hein, pour que le monde, eh bien, ne tourne pas ou ne se détruise, s'auto-détruise pas. Et donc ce poids de prière qui est nécessaire, on va dire, pour cet équilibre spirituel du monde, eh bien, c'est comme si le Seigneur le confie aujourd'hui à toutes ces dizaines, ces centaines, ces milliers, hein, de chapelles, de paroisses qui prient le jour, la nuit, avec des personnes qui se relaient dans l'intercession, vous voyez, pour porter l'Église et le monde. Donc il y a certainement quelque chose de profond, hein, par rapport à ça. Alors, la distraction, je reviens à ma distraction, c'est pas très organisé, hein, je suis désolé, bon, voilà, mais les distractions, on peut les sanctifier. Vous voyez, si, dès que vous arrivez devant le Saint-Sacrement, vous pensez à une personne qui vous a agacé et vous demandez au Seigneur, vous avez des idées noires, priez pour cette personne. Si elle est dans votre esprit, c'est que certainement elle est importante pour vous, ou voilà, elle vous fait souffrir, donc elle est importante pour Jésus, elle fait souffrir. Priez pour cette personne. Après, vous pensez à un truc que vous n'avez pas fait, priez pour cet événement-là, pensez à vos vacances, priez pour vos vacances, pour que ce soit des saintes vacances. Hein. Mais on peut toujours, voyez, d'abord, quand ces pensées viennent dans notre esprit, si je cherche à les chasser, par la force de ma volonté, elles vont revenir deux fois plus fort en boomerang. Vous voyez, ça ne marche pas comme ça. Hein, de dire « je ne pense pas à toi » et de penser très fort qu'on ne pense pas à quelque chose. Voilà, on y pense deux fois plus. Et non. Donc laissez faire. Hein. Et après, vous verrez, vous pouvez simplement la confier au Seigneur. Vous pouvez changer votre position de corps, comme on disait, vous remettre à genoux, reprendre un peu la parole de Dieu. Le chapelet... C'était Mère Teresa de Calcutta, quand elle priait, elle commençait par le chapelet. Et puis il y a tous les théologiens qui ont dit, mais non, elle n'a rien compris, elle est devant Jésus, elle dit, je vous salue Marie, cette pauvre sœur, encore complètement paumée. Et donc, il a fallu que ce soit Jean-Paul II qui intervienne, hein, et qui rassure Mère Teresa en disant, bien sûr que c'est Jésus, je ne prie pas Marie. Quand je vois l'hostie, ce n'est pas Marie qui est là. Hein. Et encore, quand il y a Jésus, il y a toujours Marie qui est à côté. Bon, bref. Mais vous comprenez que toute la spiritualité mariale, c'est Marie qui me conduit à Jésus. C'est Marie qui m'accompagne dans la foi, l'espérance, la charité, qui m'aide à ouvrir mon cœur à Jésus. Donc, on peut vivre son chapelet devant le Saint-Sacrement. Ça offense pas le Seigneur. Au contraire, il est content. Mais encore une fois, si je veux prier trois chapelets, est-ce que je vais le faire devant le Saint-Sacrement ? Alors, vous voyez, est-ce que je vais devant le Saint-Sacrement pour prier le chapelet, ou est-ce que je vais adorer Jésus et je demande à Marie de me conduire dans cette adoration. Voilà. Donc, on a plein de... Quand on est distrait, on les sanctifie. On peut, si on sent que notre esprit part dans tous les sens, on peut prier Marie, on prend la parole de Dieu. Mais ce qu'il faut, c'est arriver au moins pendant 15 minutes, une demi-heure, si on peut, eh bien, à laisser Jésus travailler en nous, à laisser Jésus faire. Voilà, en conclusion, la conclusion de la conclusion, l'Apocalypse, c'est très intéressant, ce grand livre de l'adoration, un trône. La question c'est qui sur le trône ? L'agneau, Jésus dans l'Eucharistie, ou toutes les bêtes bizarroïdes que vous avez dans les chapitres 13, 14 et tout ça de l'Apocalypse. Alors, vous avez déjà cette femme, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle enfante un peuple d'adorateurs, et vous souvenez, le démon il est chassé du ciel par Gabriel, Michel. Et ensuite, bon, il est chassé sur la terre. On aurait préféré qu'il soit directement en enfer, mais il passe par la terre avant d'aller en enfer. Bref. Et il est écrit en Apocalypse 12:11, les enfants de Marie, il est écrit, ils l'ont vaincu, le démon, là, par le sang de l'agneau et le témoignage qu'ils ont donné, allant jusqu'à mourir. C'est-à-dire que dans le plan de Marie, c'est... Vaincre le démon, c'est le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est la messe. La messe, ça rend présent la mort et la résurrection de Jésus. C'est le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est la messe et l'adoration, où Jésus continue de répandre son précieux sang sur l'humanité. Donc, notre prière eucharistique, messe, adoration, le sang de l'agneau, et ensuite, notre témoignage. Après, il faut témoigner, il faut le dire, il faut s'engager, il faut y aller. Voilà. Et donc, on voit tout ce combat. À un moment, il est dit que l'agneau, c'est la bête qui régnera, qui sera sur le trône pendant une heure, pendant un temps limité. C'est plus Jésus qui est adoré, c'est la bête. Et la bête, c'est tout ce qui s'oppose à l'adoration de Dieu, dans la société, dans le cours des âges. Et à la fin, la vision finale, on voit du trône de l'agneau, il est adoré jour et nuit, c'est-à-dire les amis de l'agneau, jour et nuit se tiennent devant l'agneau, c'est l'adoration continue. Ils chantent le cantique nouveau. Tu es digne, Seigneur, d'être adoré pour tout ce que tu as fait pour notre salut. Et on voit du trône de l'agneau ce fleuve qui vient guérir les nations. C'est-à-dire que nos nations sont guéries par ce fleuve d'eau vive qui découle de l'Eucharistie, célébré, adoré, alors qui est bien sûr ce que Jésus a fait sur la croix, mais qui passe par la petite hostie pour venir guérir les nations. Alors, mais voilà, je m'arrête là parce que je crois que j'ai dépassé. Donc, merci. Et donc, je ne sais pas si on fait l'adoration. Si...
Alors, déjà, est-ce que vous... Il y en a qui ont des questions ? On peut encore donner la place à une ou deux questions.